Bonjour à tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion encore de saluer. Donc ce matin, nous continuons une série de 4 prédications sur le thème « Un chemin avec l'apôtre Paul ». Le dimanche 10, nous avions Raphaël qui nous a parlé de la conversion de Saul de Tarse. Dimanche dernier, Stéphane nous a enseigné sur le premier voyage missionnaire. Et ce matin, j'ai la lourde tâche de prendre le deuxième et troisième voyage missionnaire. Ça recouvre, grosso modo, merci, ça recouvre cinq chapitres. Cinq chapitres, donc, des Actes des Apôtres, du chapitre 15, verset 36, pour ceux qui ont une Bible et qui veulent regarder, jusqu'au chapitre 20e, voire début du 21e. Donc, il faudra que nous fassions un survol. C'est impossible de passer sur ces cinq chapitres en profondeur, mais on va prendre quelques éléments pour résumer plus de 10 ans de travail de l'apôtre Paul, environ de l'an 49 à 59, et ce sont donc des milliers de kilomètres. Ça représente donc des milliers de kilomètres. Donc, ce que j'ai choisi comme angle d'attaque, on va dire, sur ces cinq chapitres, quelles leçons allons-nous tirer, quelles leçons pratiques de vie tirer de ces deux voyages? Et j'ai noté 8 leçons principales, il y en aurait encore bien sûr d'autres, vous le comprenez. Et donc on va lire dans Acte 15, versets 36 à 41, pour la première de ces leçons. Acte 15, 36 à 41. Quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir où ils en sont. » Barnabas voulait prendre aussi avec eux Jean, surnommé Marc, mais Paul estima ne pas devoir prendre avec eux celui qui s'était détourné d'eux depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Le dissentiment fut si aigre que finalement, ils se séparèrent. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il traversa la Syrie et la Cilicie en affermissant les églises. Donc, nous voyons ici ce projet de Paul de visiter, projet de visite missionnaire. Parce que dans son cœur, il a un fardeau. Il aime ces églises, qui est composée d'enfants spirituels, qu'il a enfantés aussi avec douleur parfois. Et il prend l'exemple aussi dans la lettre aux Thessaloniciens, la première, aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Il dit, nous étions comme une mère, ce qu'une mère était pour ses enfants, la douceur d'une mère. Et puis il dit aussi, nous étions auprès de vous comme un père qui exhorte, qui vous console pour une marche digne du Seigneur et son royaume. C'est donc dans 1 Thessaloniciens 2, 7. Alors, on comprend que Paul, eh bien, comme il l'écrit aux Philippiens, il dit, je vous porte dans mon cœur. Il portait ses églises, ses enfants de Dieu dans son cœur et comme bien sûr il n'y avait pas le téléphone, il faut bien penser, ni encore moins Internet, et donc il fallait trouver des solutions pour retrouver ce qu'on avait quitté, et donc il fallait aller à leur rencontre aussi d'une façon physique, c'est-à-dire retourner. Mais ce projet, qui est un noble projet, eh bien, est menacé par un différend. Et là, on a une leçon aussi, je crois, de vie pour nous. Ce n'est pas toujours évident d'être d'accord, même entre serviteurs de Dieu, on le voit ici, même qu'ils avaient les deux la même vision et qu'ils avaient été bénis par le Seigneur, eh bien, hélas, survient un différend. Et on peut se poser la question, est-ce que Paul avait-il raison de refuser Jean-Marc ? Probablement oui, je dirais. Parce qu'il y a un contexte d'opposition, de persécution, et quand on lit la suite des chapitres, on comprend que ce n'était pas du gâteau, comme on dit, ce qui attendait Paul et ses compagnons. Et donc, si Jean-Marc avait été là, on ne sait pas s'il aurait tenu le coup. Surtout qu'il les avait abandonnés, semble-t-il, avant des gros coups durs. Donc, il avait probablement raison. Mais est-ce que Barnabas a-t-il eu tort d'emmener Jean-Marc ? Probablement non. Il n'a pas eu tort, parce qu'il est devenu par la suite une précieuse aide, même pour l'apôtre Paul, même pour l'apôtre Pierre, où il lui a aidé à écrire l'évangile selon Marc, puisqu'on l'appelle l'évangile selon Marc. Donc, gardez ce principe de ne pas se laisser arrêter par des différends. Il y en aura toujours parce qu'on est des humains, et il faut accepter que ça puisse arriver, même dans les églises, mais il faut avancer comme on a été exhorté au dimanche inter-église qu'on a vécu il n'y a pas longtemps, selon cette exhortation de l'apôtre Paul aux Philippiens, quand il dit, frère, il dit ceci, Philippiens 3, 15, nous tous donc qui sommes des hommes faits ou accomplis ayant cette pensée, et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Donc soyons patients. Seulement au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble, ou marchons dans la même direction, comme traduit la Tobe ou le grec, marcher dans la même direction. Ça, donc Dieu a béni aussi, certainement, Barnabas aussi, avec son neveu, Jean-Marc, qui sont partis sur l'île de Chypre. Mais la parole, le Saint-Esprit nous a laissé dans les actes le récit de l'apôtre Paul. Il nous a conservé ce récit. Et donc Paul repart avec Silas. Silas, qui est-il ? C'est un prophète qui est reconnu dans l'Église. Et ils sont recommandés par les frères, il est dit, à la grâce du Seigneur. Donc ils partent en communion avec les frères de l'Église d'Antioche et ils vont affermir les Églises en remontant vers le nord de la Syrie et de la Cilicie, région d'origine de l'apôtre Paul. Et puis, au passage, on voit dans le chapitre 16, on le voit dans le chapitre 16, pas que j'oublie de changer. Dans le chapitre 16, nous voyons qu'il s'arrête donc à Derbe, visiter cette jeune église, et il repère un disciple qui s'appelle Timothée. Et ce disciple, eh bien, ils vont l'emmener avec eux pour le former. On pourrait prendre aussi du temps pour développer ce point, mais on passe plus loin. Ils travaillent avec ce jeune, donc ils sont quatre. Il y a Paul, Silas, Luc aussi qui se joint à eux, et Timothée. Donc ils travaillent, on voit au verset... On va lire le verset 4 et 5. En passant par les villes, partout dans ces villes, il y avait des églises. Et ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem afin qu'on les observe. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Donc, ils sont délégués. Ils étaient d'ailleurs les délégués de l'église d'Antioche. Ils sont allés à Jérusalem transmettre les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem sur la question du salut. Vous savez que la doctrine sur le salut gratuit était menacée par des frères juifs qui enseignaient qu'il fallait se circoncire, qu'il fallait garder l'observation stricte de la loi de Moïse. Et ça a fait beaucoup de remous dans ces jeunes églises, ça a troublé. Et donc Paul et Barnabas et d'autres ont été délégués à Jérusalem pour cette grande conférence dont vous avez l'histoire dans le chapitre 15. Qu'on n'a pas développé. Et donc, ça montre l'importance de maintenir la communication pour maintenir une bonne communion. Ces deux mots sont proches et c'est pas pour rien. Bonne communication et bonne communication doivent aller ensemble. Parce qu'il faut maintenir, il fallait maintenir des liens spirituels entre ces églises mères, qui étaient l'église de Jérusalem et l'église d'Antioche, qui sont deux églises, on va dire, qui sont des mères spirituelles, qui ont envoyé ces deux églises qui sont parties de tous les mouvements missionnaires du premier siècle. Et donc, c'est important donc, de maintenir cette communion, cette communication. De même aussi, nous, ici à Grenoble, eh bien, nous essayons aussi de nous retrouver entre les responsables d'église pour des rencontres appelées pastorales. Et c'est important de maintenir une bonne communion et une bonne communication. Sinon, nous risquons de laisser une emprise au diable qui cherche à mettre des grains de sable et lui, il ne va pas nous rater pour nous dresser les uns contre les autres. Donc, nous sommes appelés à veiller aussi là-dessus. Je vous montre une carte quand même, parce qu'il faut qu'on voit un peu ce deuxième voyage. Donc, vous voyez ici sur cette carte comment ce que représente ce deuxième voyage. Stéphane, dimanche dernier, nous a parlé de milliers de kilomètres. Et en effet, ce n'était pas peu de choses que de visiter donc cette ce qui est appelé l'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie actuelle, la Syrie d'abord, ensuite la Turquie, et puis après aller jusqu'en Macédoine et en Grèce. Donc c'était vraiment le projet de Dieu. Et donc Paul et Silas, eh bien, et leurs compagnons se sont laissés diriger. Et on va voir dans Actes 6 et 16, versets 6 à 10, qu'ils sont empêchés par le Saint-Esprit. Ils sont, donc, quelle deuxième leçon on va garder d'eux, de Paul, c'est la flexibilité et l'écoute du Saint-Esprit. Paul n'est pas un homme buté, même si c'est un homme entier, c'est pas un homme buté, il se laisse guider. Et je crois qu'on a une leçon aussi à apprendre, chacun de nous, d'avancer par étapes dans nos vies et d'accepter les limites fixées par Dieu sans forcer les choses. C'est le GPS divin. C'est important d'écouter par des circonstances peut-être ou par un prophète. Si là c'était prophète, je le rappelle, donc il a donné des directions probablement. La Bible ne nous donne pas de détails, sinon quand même cet appel une nuit du Macédonien dans une vision, et Paul comprend qu'il faut vraiment, plutôt lui qui voulait monter au nord et qui voulait atteindre la Bithynie et la Mysie, eh bien ils sont empêchés d'aller dans ces régions et le Seigneur les veut à l'ouest, c'est-à-dire contre l'Europe, et ils vont y aller. Et ça me rappelle aussi ce texte d'Apocalypse 2, aussi, où il est dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie, du paradis de Dieu. Apocalypse 2, 7. Écoute. Écoute d'église, écoute personnelle, c'est que celui. Et puis il est parlé des églises, pluriel. Vous voyez, c'est intéressant. Il y a l'écoute personnelle. Et puis il y a l'écoute communautaire, un peu ce qu'on a vécu par la grâce de Dieu dernièrement à Pentecôte, où on s'est vu lors d'une journée et demie, où on a pu, avec les responsables de l'Église et d'autres frères et sœurs aussi qui, parmi vous qui étiez là, écouter Dieu, prier pour l'avenir de notre Église. C'est très important, donc, de prendre ce temps d'écoute, et c'était vraiment une bénédiction pour nous aussi de vivre ces moments dans notre assemblée. Donc il y a une promesse de victoire qui est dite à celui qui écoute. Et ils sont récompensés puisqu'ils sont conduits vers un lieu de prière, vers un groupe de femmes. On pourrait dire à l'époque, un groupe de femmes, ça aurait pu paraître dérisoire. Bon, ces femmes qui prient au bord d'une rivière. Eh bien ces femmes, elles ont une grande valeur dans le plan de Dieu. Elles sont faibles selon le monde, mais elles sont fortes aux yeux de Dieu parce qu'elles le craignent, elles le respectent, elles ont foi en lui. Et Paul et ses compagnons ne dédaignent pas d'aller vers ces femmes et prennent le temps de leur expliquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cela conduit à la conversion donc, de Lydie, cette femme d'affaires qui va ouvrir sa maison Elle va d'abord ouvrir son cœur, par la grâce de Dieu, ne l'oublions pas. D'abord, Dieu lui ouvre son cœur pour qu'elle soit attentive, ce que disait Paul. Là, on voit encore la souveraineté de Dieu. Dieu lui ouvre son cœur. Elle est attentive, elle écoute, elle reçoit la bonne nouvelle dans sa vie. Elle est transformée par le Seigneur et elle accueille les apôtres chez elle. Et ceci sera la base missionnaire donc, de la première église d'Europe. Et nous sommes en l'an 49 ou 50 après la naissance de Jésus-Christ, donc environ 20 ans après son départ. Ensuite, on voit les apôtres dans Actes chapitre 16, versets 16 à 40, qui sont dans cette ville de Philippe, qui sont confrontés à cette servante qui a un esprit de divination en elle et fatiguée d'être pourchassée par cette femme. Ça conduit donc Paul à faire ce qu'on appelle un exorcisme et qui va les conduire à la prison. Et ils auraient pu dire, Paul aurait pu avoir de l'amertume et dire, je fais la volonté de Dieu, je délivre cette servante et voilà de ces mauvais esprits. Et voilà ma récompense, on se trouve en prison, les fers aux pieds. J'essaie d'imaginer quelle aurait été ma réaction si ça m'était arrivé à moi. Parce qu'ils louent, il est dit, ils ont les fers aux pieds, mais au milieu de la nuit, ils chantent, ils prient et chantent les louanges de Dieu. Tous les prisonniers les entendent. Ils sont dans un abandon, dans une confiance extraordinaire parce qu'ils savent que Dieu est souverain, il tient les circonstances dans sa main. Quel exemple! Je suis impressionné quand je vois cet exemple. Et ça nous rappelle aussi ce principe spirituel qui est si important dans l'épreuve, au lieu de murmurer, comme ça nous arrive, en tout cas moi, peut-être pas vous, mais ça peut nous arriver, devant les contrariétés, eh bien, de murmurer, eh bien, là, la louange les conduit à une grande délivrance. Psaume 18, verset 4, où il est dit, je vous lis, où c'est le roi David qui dit ceci, « Mon bouclier, Dieu est mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis sauvé de mes ennemis, ou délivré de mes ennemis. » Relisez si jamais ce début de psaume 18 qui est extraordinaire, et Paul l'a mis en pratique avec ses compagnons. Il y a d'autres textes encore qui parlent de la puissance de la louange dans le psaume 149 et Éphésiens 5, verset 19. Donc Dieu n'est pas à court de moyens et leur secret finalement de victoire, c'est de cette louange qui les fait regarder à Jésus-Christ mort et ressuscité, comme il le dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 8 à 10. Dans des circonstances dramatiques où il se voyait mourir, eh bien Paul dit, nous avons placé notre espérance dans le Dieu qui ressuscite les morts. Alors si quelqu'un parmi nous ce matin était dans une situation particulièrement difficile, eh bien, qu'il regarde à Jésus-Christ qui a vaincu la mort, et ça, c'est la source vraiment de pouvoir rebondir, on va dire, des pièges de la mort, du découragement. C'est une source inépuisable qui a conduit Paul aussi à cette victoire. Et puis, une famille entière, c'est la famille du geôlier qui est sauvée, et une église qui se bâtit, l'église de Philippe. Je passe plus loin. Donc la quatrième leçon, c'est comment présenter Dieu dans une société philosophique. Donc Paul se retrouve à Athènes, dans le chapitre 17, je saute, il a passé à Thessalonique, il a passé à Béréa, où Dieu le bénit, et chaque fois, bénédiction, conversion, persécution, comme Stéphane nous avait parlé dimanche dernier. Il y a la bénédiction, mais il y a aussi la persécution. Et puis finalement, Paul est à Athènes. Et à Athènes, eh bien, il est avec les philosophes du monde passé. Et donc, il rappelle que Dieu est le créateur de l'univers, qui n'habite pas dans des temples construits par des hommes, et que ce Dieu-là n'a besoin de personne. Ça, c'est aussi quelque chose de fort. Ce Dieu inconnu dont il a vu une stèle, eh bien, il saisit l'occasion pour les rejoindre sur leur propre terrain et montre par là que Dieu les cherche, que Dieu n'est pas loin d'eux, que nous avons été créés à l'image de Dieu aussi, mais que ce Dieu-là, eh bien, il attend des hommes à tous, en tout lieu, qui se repentent, parce qu'il va bientôt juger le monde par l'homme qu'il a désigné, qu'il a choisi, et dont il a donné une preuve certaine qu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Donc, Paul annonce ce message, mais ce n'est pas le succès des foules. Il y a quelques-uns qui s'attachent à ce qu'il a dit. Et puis, c'est vrai que dans les des actes, on ne voit pas de traces d'église mentionnée de l'église d'Athènes. Bien sûr, certainement, Dieu en a créé une, mais pas tout de suite, semble-t-il, ou ce n'était qu'un début. Alors, on passe aussi à la cinquième leçon, qui est la capacité d'adaptation de l'apôtre Paul, qui va d'Athènes, il se rend à Corinthe, plus au sud, et c'est là que Paul, il trouve des nouveaux collaborateurs avec Aquilas et Priscille, qui étaient des fabricants de tentes, qui consistaient en quoi ? Qui consistaient dans un tissage d'étoffe et de poils de chèvre. À l'époque, beaucoup de gens voyageaient et vivaient sous des tentes, et donc, c'était un métier d'artisan, on va dire, et chaque rabbin était tenu d'apprendre un métier manuel pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et là, on voit la polyvalence de Paul, qui savait travailler quand c'était nécessaire, de ses mains, et qui savait coudre, très probablement, et ce qui ne l'empêchait pas de témoigner à travers son travail et de prêcher aussi chaque sabbat dans la synagogue. Et il reçoit aussi, à un moment donné, un don de l'église de Philippe, une église qui venait de fonder, et grâce à ce don qu'il reçoit, il peut se consacrer davantage à la parole, et il est dit qu'il s'est consacré entièrement à la parole pour attester aux Juifs que Jésus était le Messie. Donc, voilà cette souplesse, on va dire, d'adaptation. Et pour nous, pour la plupart de ceux d'entre nous ou d'entre vous qui sommes dans un travail séculier, eh bien, ça ne doit pas empêcher notre témoignage à travers notre travail et se dire « Ah ben moi, je ne suis pas à plein temps, donc je laisse faire les spécialistes. » Non, nous sommes tous à temps plein pour le Seigneur, n'est-ce pas ? Et donc, c'est important de garder cette vision. Et puis, être à plein temps, pour ceux qui sont les rares qui sont à plein temps, dont moi-même, eh bien, nous devons aussi pas faire de tout ce temps qui nous est donné, choisir de faire ce qui nous plaît, mais apprendre à gérer le temps qui nous est donné, à le consacrer à Dieu, à nos frères, et donc rester à l'écoute. Et finalement, nous tous, dit Paul aux Éphésiens chapitre 5, et ça c'est aussi quelque chose d'important dans ce texte d'Éphésiens que je vous lis. Éphésiens 5, au verset 15. « Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des insensés mais comme des sages, rachetez le temps. » Alors, le mot « racheter le temps » dans l'ancienne traduction second, il n'est pas le mot exact. Donc, le mot exact, vous l'avez écrit, c'est « mettant à profit le temps présent ».« Mettre à profit le temps présent ». Ou « saisir les occasions qui se présentent », a traduit la version du Semeur. Donc, « mettre à profit le temps présent », c'est tellement important. Mais pour ça, on a besoin d'être réveillé. Et juste avant, il a dit « Réveille-toi, toi qui dors !» Parce qu'on a tous tendance à s'endormir, à se reposer sur nos lauriers. C'est notre nature humaine qui fait ça. Et donc, nous avons besoin d'être réveillés, renouvelés par le Saint-Esprit, pour être attentifs, pour être à l'écoute. Et comme il est dit au verset 14, « Réveille-toi, toi qui dors !»« Relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi !» Il y a la mort spirituelle qui est dans ce monde, et c'est le salut, se réveiller, mais c'est aussi, en tant que chrétien, être attentif, nous laisser remplir, comme il est dit, continuellement par le Saint-Esprit, pour pouvoir faire la volonté de Dieu et saisir les occasions qui se présentent à nous. Ensuite, bâtir solide. Voilà encore une autre leçon de vie de l'apôtre Paul. Paul bâtit avec le seul matériau qui est durable et qui est éternel, c'est la parole de Dieu. Il passait son temps à investir. Il passait sa vie à investir la parole chez tous ceux qu'il rencontrait et en tout lieu. Il y a environ 30 mentions dans les Actes des Apôtres où on voit Paul qui fait ces choses en relation avec la parole, la bonne nouvelle ou les Écritures. Et aux Thessaloniciens, il va leur écrire « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme, comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Donc, Paul avait foi dans la puissance de la parole de Dieu. Est-ce que nous avons aussi confiance dans cette parole pour nous-mêmes et aussi pour l'investir dans la vie des autres qui nous entourent? Si nous sommes parents, est-ce que nous saisissons les occasions qui nous sont données chaque jour de semer cette parole dans la vie de nos enfants? Est-ce que nous saisissons les occasions pour nos voisins, nos collègues peut-être de travail ou une personne anonyme? Que Dieu nous aide, parce qu'il y a vraiment des fois des occasions qui nous sont comme servies sur un plateau et parfois nous les avons ratées. Moi j'en ai raté combien? Donc investissons dans le solide et soyons fiers de la parole, qu'elle soit vraiment un trésor pour nous. On revient à la carte. C'est la fin du deuxième voyage de Paul qui rentre à Antioche dans son église d'envoi. Et puis, il va repartir. Il va repartir aussi. Et il repart, semble-t-il, avec toute une équipe. Et cette équipe, donc vous voyez, c'est à peu près la même chose. Il va revisiter toutes ses anciennes églises avec une nouvelle équipe, puisqu'il est parlé de 7 collaborateurs, je note plus un, parce qu'il me semble que Luc est encore avec eux, mais Luc, il ne parle pas de lui-même. Il est très humble. Et donc, il travaille avec ses 7 compagnons fidèles que l'on voit dans Actes 20, où il est dit, verset 4, « Il avait pour l'accompagner Sopater, fils de Pyrrhus, de Béréï, Aristarque et Secondus de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, qui lui était de Lystre, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. » Alors vous voyez, il venait de toutes ces églises qu'ils avaient fondées et il repérait des frères fidèles, probablement des jeunes, pour les former, pour les entraîner, les encourager. Et ça nous rappelle aussi que bien nous devons aussi apprendre à travailler en équipe, à nous compléter dans l'Église. Comme Paul dit aussi aux Éphésiens que dans l'Église, eh bien, il y a différents ministères. Il y a les apôtres les missionnaires. Hein. Dans Éphésiens 4, verset 11, c'est lui, donc le Christ, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs ou enseignants, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du ministère ou du service. Donc on est complémentaires. On est complémentaires et c'est ça qui fait la beauté de l'Église et nous rappeler que par rapport aux dons, devons être soumis aussi au Saint-Esprit, puisque c'est lui qui distribue à chacun en particulier, comme il veut, tel ou tel don. Et nous aussi, eh bien, dans notre Église, nous avons tellement de possibilités de servir. Et on se réjouit aussi avec les anciens, on se réjouit de voir beaucoup qui se mettent au travail et qui sont avec nous, qui font avancer l'Assemblée. Et dernièrement, on a eu l'occasion, avec une vaillante équipe, de participer au nettoyage. Alors j'aimerais rendre justice à ceux qui sont venus après, parce qu'il y en a encore au moins une vingtaine qui sont venus après. Alors vous ne les voyez pas tous sur la photo, parce que bon, moi je ne suis pas resté non plus tout le temps. Et puis, ben voilà, c'est le début, vous vous reconnaîtrez pour ceux qui étaient là le plus tôt, on va dire. Et on a vécu vraiment une journée de nettoyage où on a pu travailler ensemble dans la joie, même si ce n'est pas forcément facile de nettoyer. Quand je pense au grenier aussi, la chaleur qu'il faisait dans le grenier, ceux qui étaient dans le grenier, où ce n'était pas évident de mettre de l'ordre dans le grenier. Donc voilà, mais j'étais heureux de voir après le résultat, ça vaut le coup. Et en plus, on est bénis. À ceux aussi qui, dernièrement, tous ces jeunes que je voyais qui préparaient les gâteaux pour la fête de la musique, et avec vraiment beaucoup de dévouement. C'est beau de voir une église où chacun participe. C'est vraiment très encourageant pour nous. J'en arrive au dernier point, le huitième, c'est la valeur de l'exemple. C'est dans Actes chapitre 20. Et donc, dans ce chapitre 20 des Actes, eh bien, on ne va pas le lire. Vous l'avez lu peut-être à la maison, je vous avais envoyé un mail. Et c'est le message d'adieu de Paul aux anciens d'Éphèse, où il résume sa vie et son exemple. Et il donne en même temps des exhortations aux anciens à veiller sur eux-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit les a établis, pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Donc c'est un message solennel, émouvant. Et Armel aura l'occasion de revenir dimanche prochain sur ce modèle qu'est l'apôtre Paul, un modèle pour nous, un exemple. Et je conclue, on m'a dit de ne pas faire trop long, donc j'espère que je ne vous ai pas trop fatigué. j'arrive à la conclusion. Paul, un modèle du divin modèle. Dans 1 Corinthiens 11, 1, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ ». Imitateur de Jésus-Christ. Soyez mes imitateurs. Donc, on se sent aussi impressionné devant... C'est vrai que Paul n'était pas n'importe qui. C'était vraiment un homme exceptionnel. Alors, pour les églises, imitons son amour. Avec le Saint-Esprit, il dépend du Saint-Esprit. Dans l'épreuve, il est un modèle aussi. De souplesse, dans l'épreuve, il loue son Dieu. Vis-à-vis d'une culture différente, il s'adapte, il se met au niveau de ses auditeurs, dans sa prédication, dans le travail et l'argent, la gestion du temps, du travail et de l'argent, chose si importante et si pratique. Il fait preuve de souplesse, de persévérance, de sagesse. On voit ça à Corinthe, à Éphèse. Et puis concernant la parole de Dieu, eh bien, aussi quel exemple de fidélité pour transmettre cette parole. Et puis, finalement, avec les plus jeunes aussi, il associe toute une équipe de jeunes avec lui, il les entraîne au service. Soyons aussi des entraîneurs, nous les plus âgés, pour entraîner les plus jeunes à servir notre grand Dieu. Donc un chemin avec Paul, c'est vrai que c'est un homme au destin exceptionnel, un homme humble, je dirais, et authentique, qui n'avait pas peur de pleurer aussi devant ses frères. Et ce modèle ne doit pas nous écraser, mais nous inspirer. Amen. Je proposerai...